Bien, donc je me présente, je suis Christophe Bourgoin. J'ai une formation d'historien et d'histoire de l'art, bonjour. Mon parcours, c'est une maîtrise qui portait sur l'art des jardins, avec Madame Lamarre à Lyon 3 à l'époque. Et cette maîtrise s'est faite dans le cadre des grands travaux du bicentenaire en 89, et j'avais été boursier. Je travaillais pour la DRAC de Dijon à faire l'inventaire des parcs et jardins de Bourgogne sur les quatre départements. J'ai poursuivi ensuite en DEA en histoire religieuse sur une autre question qui était les jardins monastiques au XVIIIe siècle. J'ai passé les concours CAPES à Grègue. Et ensuite, je suis parti dans le bain de l'enseignement, comme TZR. Donc, j'ai tourné pas mal en banlieue. Et en 2003, j'étais à l'époque déjà au lycée Brossolette. Je suis parti enseigner pendant 5 ans en histoire des arts au lycée Jacques Brel. Voilà. Dans l'option lourde, histoire des arts. Qui était coefficient 5 au bac et réservé aux littéraires. Cette option a été liquidée il y a 2 ans par le recteur qui a moins de 13 élèves par option à fermer. Il ne reste plus, si j'ai bonne mémoire, que Saint-Just, Honoré d'Urfé et Kiné à Bourg, qui enseigne encore l'histoire des arts. Voilà. Donc la question que je me suis posée donc dans le cadre de ces nouvelles attentes, notamment au niveau du primaire, du collège et du lycée, c'est le rôle que peut avoir. Moi, je suis historien. Ce que je peux faire auprès de mes élèves en histoire des arts dans une classe de seconde, sachant que nous découvrons les programmes cette année, donc tâtonnons beaucoup. Que les classes sont de plus en plus chargées, et j'ajouterai en ce qui me concerne que je travaille dans un établissement qui accueille des élèves déficients visuels, c'est-à-dire malvoyants ou non-voyants, et donc il est assez difficile de, par exemple, de travailler sur la Joconde avec un élève qui ne voit pas. Donc d'après mon expérience, donc premier point. Il faut partir des données du terrain. Je pense que c'est l'apport que je peux donner aujourd'hui. C'est que les attentes sont multiples, puisqu'on nous demande à la fois d'apporter une culture générale, balisée, structurée par une chronologie, et à la fois d'apporter des clés, des outils pour éduquer le regard. Il ne suffit pas de montrer un tableau à un élève pour qu'il le lise. Je crois que le choc à la Malraux nous expliquait qu'il suffisait de mettre les élèves en situation devant une œuvre et le miracle s'opérerait, l'épiphanie s'opérerait. On voit que c'est beaucoup plus compliqué. Il y a tout un travail éducatif. Ça prend beaucoup de temps. Or, l'histoire des arts n'est qu'un aspect dans l'enseignement dans le programme d'histoire géo. Donc, le risque, c'est, je crois que c'est Marx qui disait qu'il n'y a pas d'histoire de l'art, c'est de se servir de l'art comme d'une pure illustration du cours d'histoire. Or, ça ne correspond pas aux attentes des instructions. Puisqu'il s'agit pas seulement d'apporter un catalogue, une anthologie au titre du socle commun, mais il faut aussi apprendre aux élèves à regarder et éventuellement à chercher par eux-mêmes et à aller dans les musées et à rapporter, etc., etc. Donc il faut mettre en place des outils. On a peu de temps pour le faire parce qu'il y a tout le reste, parce qu'il y a la classe qui est lourde, etc. Donc ça quand même, bon. Moi, je suis assez réticent personnellement. Pour moi, c'est du saupoudrage. C'est intéressant intellectuellement. C'est nouveau. Donc, c'est un défi qui est intéressant à relever. Mais personnellement, je ne crois pas trop. Et je tiens à le dire. Voilà, que les choses soient bien claires. Je crois que pour moi, c'est de la poudre aux yeux. C'est paillettes. ce sont des slogans, et après à nous, l'intendance suivra, et l'intendance, c'est évidemment, c'est nous. Et mettre en place tous ces outils, ça suppose du travail en demi-groupe, ça suppose des déplacements, etc., etc. Quand on le faisait dans le cadre de l'histoire des arts, dans un cadre optionnel, c'était beaucoup plus facile. En même temps, il est quand même intéressant, je pense, que les élèves désacralisent le musée, désacralisent l'œuvre d'art aussi. Si vous montrez la Joconde aux élèves, ils vous diront c'est de l'art. C'est joli, ça s'accroche sur un mur, et l'art, ça doit représenter quelque chose. Alors, voilà, tous ces poncifs, toutes ces idées reçues, je pense qu'il est intéressant de les casser. Mais en même temps, et là c'est la deuxième, je dirais, donc ça c'était le premier point, les attentes multiples. Mais deuxième point, c'est le public. Un public hétérogène, avec des prérequis plus ou moins solides, plus ou moins vrais, et une motivation qui est là aussi diverse. Vous montrez la Joconde à des élèves, il y a des élèves qui vont la reconnaître et qui vont être très fiers de la reconnaître, qui vont dire beaucoup de bêtises dessus, d'autres qui vont dire que ça ne les intéresse pas. Et le problème, c'est que ces deux élèves sont côte à côte et que il faut enseigner aux deux. Alors, je crois que l'un des moyens, si vous voulez, d'aborder, par exemple, dans le cadre d'un cours qui s'appelle L'homme au centre de l'univers, donc c'était le cours d'histoire, sur l'humanisme. Je suis parti du principe que puisque tout le monde connaissait la Joconde ou croyait la connaître, moi, il fallait l'utiliser. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui doivent, à mon avis, figurer dans toute étude. C'est d'abord le référencement. Il faut qu'une œuvre soit référencée, il faut qu'elle soit datée, il faut que toute la matérialité, c'est-à-dire le contexte technique, soit apportée, mais ça plutôt par le professeur, et qu'à partir d'un certain nombre d'un lexique, de notions techniques ou esthétiques ou théoriques, qui sont donnés aux élèves, pas forcément a priori, mais plutôt en cours de leçon, expliqués en cours de leçon, il faut que les élèves partent avec du matériel, après, pour pouvoir le réutiliser. Alors, par exemple, un travail que je mène en seconde avec mes élèves, c'est je pars de la Joconde, donc de quelque chose qui leur paraît connu, qui les déstabilise pas, et je continue, voilà. Donc après avoir présenté les références techniques, etc., je pense qu'il faut aborder l'étude d'une œuvre d'art comme une expérience, donc avec des questions. Il faut que les élèves posent des questions. Voilà. Il faut secouer le prunier. Il faut que les élèves s'approprient la lecture. Et je pense que là, ce que je suis en train de faire ne serait pas bon dans un cours en classe entière. Et par exemple, moi, ce que je fais personnellement, c'est que je les emmène en salle informatique et les élèves ont sur un poste, ils sont deux, ont l'image et peuvent ainsi aller vers le détail. Parce que ce qui est intéressant dans la Joconde, c'est moins l'ensemble que le détail. Alors, il y a un petit bouquin qui est très intéressant qui s'appelle... c'est le bouquin de Daniel Arras, je ne me souviens plus, je l'ai apporté... voilà, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le détail, c'est quelqu'un qui déconstruit le tableau, et je pense que à travers ces questions, on va aller fouiller un petit peu dans les recoins du tableau, et on va se rendre compte que ce tableau n'est pas aussi lisible et évident qu'il n'y paraît, puisque si vous le constatez, ça n'est pas seulement un portrait, mais c'est aussi un paysage, et ce paysage présente bien des contradictions, notamment le fait que l'arrière-plan gauche et l'arrière-plan droit ne coïncident pas. Alors c'est la question que pose Daniel Arras. Pourquoi ? Est-ce qu'il s'agit du même ? Est-ce que le paysage forme un ensemble ? Est-ce qu'ils sont deux ? Est-ce qu'il y a deux paysages juxtaposés ? Est-ce que c'est une juxtaposition et pourquoi ? Est-ce un paysage imaginaire ? Est-ce un paysage réel ? Quels sont les aspects réels ? Quels sont les aspects imaginaires ? Y a-t-il un sens de lecture? Il faut bien comprendre que pour les élèves, un portrait est évident à lire. C'est une image. Alors, il y a un problème technique qui est posé, à mon avis, par l'usage de l'informatique. C'est d'abord qu'on n'a pas le format. Ça, il faut bien le dire aux élèves. Il faut que les élèves puissent mentaliser le format, le format réel de l'œuvre. Bon, le mieux, c'est évidemment de les emmener au Louvre. Mais vous ne pourrez pas faire au Louvre ce que vous ferez en cours. Donc je pense qu'il faut faire les deux, en fait. Alors après, à partir du questionnaire, hein, questionnaire de repérage, repérer les éléments naturels, les éléments, etc., on peut légender le tableau. Hein. Repérer les dissymétries, repérer les contradictions. On peut leur faire toucher du doigt aussi la fragilité des œuvres. C'est un objet, hein. Un tableau, c'est aussi un objet. Hein. C'est une surface, c'est un objet. C'est une peinture sur bois ici, hein, donc il y a une fente verticale en haut. Voilà. Il y a aussi un aspect que les élèves voient bien, c'est le regard, hein, parce qu'il est connu. Alors ils vous diront qu'elle vous suit dans la salle, voilà. C'est un tableau mystérieux. Ils ont aussi, par le Da Vinci Code, ils sont aussi persuadés que ce tableau cache des secrets, voilà, qu'il est crypté. Et c'est justement cette notion de cryptage qui est intéressante, hein, puisque personnellement je vais m'en servir après pour les amener vers l'étude de deux styles, ce qu'on appelle le style Renaissance, le maniérisme et le baroque, hein, avec la notion d'hybridation, de transformation, de métamorphose, où une forme n'est pas toujours ce qu'elle est, ou n'est pas toujours ce qu'elle a l'air d'être. Alors, il y a une chose qui est intéressante quand même sur le plan technique et qui est à mettre en relation avec cette idée à venir du baroque qu'on construit en classe, il faut une séance de 2 heures, hein. C'est l'inachevé. Chez Léonard de Vinci, il ne trace pas des traits, hein. Il suggère des formes par une technique qu'il a inventée, hein, qui s'appelle le sfumato. Alors, il est impossible, là d'où vous êtes, ou très difficile, là d'où vous êtes, de le percevoir. C'est beaucoup plus facile sur un poste informatique, parce que vous pourrez zoomer. Bon. On peut le montrer, mais c'est pas pareil quand ils le trouvent eux-mêmes. Il y a des choses aussi qu'on ne voit pas, c'est la balustrade aussi. Voilà. On ne la voit plus. Et donc, alors Arras explique qu'il y a 3 temps dans le tableau, et là, le temps de la production. Nous regardons le tableau, c'est le deuxième temps, et puis entre temps le temps a passé, c'est à dire que nous ne regardons pas la Joconde certainement comme Léonard la percevait, les goûts ont changé, et puis deuxième élément, le tableau a vieilli, s'est abîmé, voilà. Donc là la notion de, donc là on retrouve les problèmes matériels. Bon, il y a un mystère qui est tellement évident qu'on ne le voit pas, c'est qu'elle nous regarde. Alors, il est extrêmement impudique. Il était assez rare jusqu'à la fin du XVe siècle. Si on regarde des tableaux plus anciens du bas Moyen-Âge, par exemple, la Vierge a les yeux baissés. Les femmes baissent le regard. Or, elles nous regardent. Donc, et c'est là qu'on peut entrer dans le tableau par une autre clé, qui est l'événement Joconde. La Joconde n'est pas seulement un objet, la Joconde n'est pas seulement une œuvre, la Joconde est un événement, hein, c'est une icône. Et là, on peut aborder d'autres aspects en passant par le vol de la Joconde, Picasso et Braque arrêtés, en garde à vue, on dirait aujourd'hui, voilà, etc. Donc cet aspect-là va permettre aussi d'accrocher l'intérêt d'autres élèves, l'aspect, je dirais, un peu policier ou énigme, etc. Les interprétations de Salvador Dali, les interprétations psychanalytiques, etc. Et là, on est vraiment dans la démarche, dans les attentes des programmes, qui est l'éducation du regard, montrer que le tableau n'est pas quelque chose, un objet fermé, mais quelque chose qu'on interroge, qui est ouvert. Il est ouvert à des interprétations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rigueur scientifique. Par exemple, quelque chose qui a été découvert par des... Alors voilà, par exemple, vous travaillez sur le détail, montrer la craquelure de la peinture, donc la fragilité. Et voilà, donc l'aspect technique, c'est on a fait des études spectrographiques, on a pu démontrer que Léonard ne peignait pas de façon homogène. Donc, il y avait différentes couches de peinture, donc des densités de pigments qui étaient différentes, qui étaient concentrées dans la partie droite du tableau. Voilà. Par exemple, ces aspects-là. Et donc, je reviens en arrière. Voilà, bon, ça suffira. On a découvert que la Joconde portait un châle. Voilà. Bon. Alors, on peut interroger les élèves, on s'arrête un moment, qu'est-ce que ça signifie? Alors, les élèves qui vous diront c'est une femme qui est sur le point de mourir, d'autres qui vous diront que c'est une femme bafouée, d'autres qui vous... Là, attention, on dérive vers le café du commerce. Hein. Donc, il faut revenir... au travail scientifique, et on est allé chercher dans les archives à Florence, et les parturientes, donc les femmes qui, à quelques semaines d'accoucher, c'était un code vestimentaire, portaient une sorte de mantanelle, de châle, de gaz, presque transparent, qui indiquait leur état. Voilà. Donc, c'est la dernière hypothèse. Donc, c'est une femme jeune, qui est sur le point d'accoucher de son premier enfant. Vous voyez tout ce travail, questions, archives, montrer aux élèves que on écrit des thèses, qu'il y a un travail de fond qui est fait. Voilà. Les élèves vont vous dire que ça coûte cher, qu'on pourrait utiliser l'argent autrement. Ben, bon, voilà. Quand je parlais des résistances, elles sont là. Hein. La difficulté. Nous sommes quand même entre guillemets des héritiers au sens nous avons une si nous n'avons pas hérité de notre culture nous avons un certain habitus comme dirait Bourdieu, et donc nous avons des sinon des préjugés, mais il y a des remarques de ce type un peu superficielles qui nous hérissent. Il faut se servir de ce que vous disent les élèves, même des résistances, même des bêtises. Il faut les prendre. Et puis, ils répondent, bien sûr. Attention. Hein. Ça n'exclut pas d'aller très loin. Il ne faut pas s'interdire de montrer des tableaux qui les choquent. Au contraire. Provocation, explication, appropriation. Provocation, opposition c'est vous, compréhension, explication, compréhension et peut-être appropriation. Mais il faut les laisser braconner aussi. Comme dirait Michel de Certeau, il faut, vous savez, Michel de Certeau a travaillé sur la lecture, et un petit bouquin qui s'appelle La culture au pluriel, qui est très intéressant, où les élèves, ce qu'il dit en fait, vous le retrouvez aussi dans vos pratiques, c'est que les élèves prennent des sentiers buissonniers, passent par la borne, passent par les côtés. Ne les bloquez pas. Parce qu'ils peuvent aussi trouver, moi j'ai enseigné en banlieue à Jacques Brel, avec des élèves qui n'avaient pratiquement aucun prérequis. C'était assez difficile de commencer quelque chose. Et quand ils étaient rassurés aussi, ils étaient capables de prendre des sentiers buissonniers, de mettre en relation des œuvres. Et sur le plan historique, c'était complètement anachronique, mais l'anachronisme est autorisé en art, justement. Hein. Parce que par le fait même qu'on ne peut plus regarder la Joconde de la même manière après Picasso. Et que finalement, Picasso, ou des artistes plus contemporains, des installations, ou même Cindy, je pense à Cindy Sherman par exemple, la lecture des images a changé parce que les artistes contemporains nous obligent à revisiter les œuvres du passé, sachant que les artistes contemporains les connaissent, ces œuvres. Et donc les élèves sont parfois capables, parce qu'ils n'ont pas les codes justement, de mettre en relation, de faire des branchements qui sont tout à fait inédits. Mais ça, il faut l'utiliser. Alors, quand je dis qu'on peut aller très loin, vous pourrez par exemple, d'expérience, j'ai montré l'origine du monde de Courbet. Ça ne provoque pas de réaction hostile en banlieue, hein. Mais le mutisme absolu, enfin, ce qui est aussi chez les ados une façon de s'en sortir. Par contre, vous montrez une salade, le bloc de béton avec la petite salade flétrie d'Anselmo, l'Arte Povera, vous aurez des réactions de violence, c'est scandaleux, c'est une escroquerie. Personnellement, je m'attendais à des réactions inverses. Bon, ça, alors, après, si vous voulez, c'est pas parce qu'ils ne disent rien qu'ils ne sont pas choqués, hein. Bon. Mais c'est très difficile, par exemple, avec Courbet, qui fait partie aujourd'hui du patrimoine et qu'on a l'impression de connaître là aussi, alors c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, qui a fait beaucoup d'expériences, hein, parce qu'à la fin, le dernier tableau de Courbet, on est à la limite de l'impression soleil levant, on est à la limite de l'abstraction. Bon. Alors est-ce qu'il allait vers quelque chose? Bon. C'est une parenthèse. Mais en tout cas, il faut pas hésiter à aller vers des œuvres difficiles. J'ai une autre expérience, qui a posé d'autres problèmes. Par exemple, il y a un artiste italien qui s'appelle Maurizio Cattelan, avec ses enfants pendus dans les arbres, hein, installation sur la place à Milan, etc. C'est intéressant intellectuellement, c'est une installation, vous montrez ça en image, ça passe pas, les élèves ne voient rien. Et là, ils ont une réaction de révolte. Non pas parce qu'ils voient, mais parce qu'ils ne voient rien. Ils voient des mannequins accrochés à des arbres. Ils ne voient que des mannequins accrochés à des arbres. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que le support que nous utilisons, et c'est la limite justement de l'histoire des arts, je dirais en cabinet de curiosité ou en chambre, c'est que vous montrez une image, vous allez transformer une œuvre en image. Par exemple, quand vous montrez des performances ça n'a pas beaucoup de sens de montrer des performances sous forme de photos. Hein, il vaut mieux les montrer sous forme de film, hein, parce que parfois elles sont accompagnées de, elles sont filmées. Mais j'ai autre expérience. Bon, ben en terminale, j'utilise les performances de Thomas Ruller. C'était un Tchèque, donc c'était dans les années 80 qui organisait clandestinement des simulations d'immolation. Alors c'était un hommage à Palak, etc. Donc ou dans des cités ou dans des lieux un peu isolés. Et bon, c'est intéressant, c'est difficile à montrer. C'est difficile à montrer, ça n'a aucun effet. Voilà. Alors il faut aussi penser que le PowerPoint, par exemple, est très utile parce qu'on peut stocker beaucoup d'images, on a une qualité qui n'est pas mauvaise, on peut légender, ça c'est très, très bien. Mais par contre, pour tout ce qui est art contemporain, sculpture, d'abord, donc la nature des œuvres, sculpture, performance, vous allez figer l'œuvre. Vous allez figer l'œuvre. C'est intéressant pour la peinture parce que vous allez pouvoir utiliser, aller dans le détail, aller dans les coins. Par contre, vous allez tuer une performance. Quelqu'un comme Ernest Pignon, Ernest par exemple, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de l'étudier comme on l'étudie la Joconde. Donc il faut bien faire comprendre aux élèves que ça aussi c'est intéressant, ça ils peuvent le comprendre, que le support et le médium, hein, nous enferment notre regard. Parce que les élèves ont dans leur tête une représentation, celle du 19e siècle. L'artiste est un génie, Une œuvre se regarde, une œuvre est une représentation, c'est donc une image. Et il faut casser tout ça. Alors, attention à ne pas les conforter en utilisant systématiquement les mêmes supports. D'où, et c'est le deuxième point de mon intervention, la question de l'appropriation. Et donc des travaux qu'on peut faire sur place. Je pense qu'il y a une chose qui est essentielle, c'est la prise de parole. Il faut que les élèves parlent, il faut que les élèves notent, il faut que les élèves dessinent. Et nous avions un outil en histoire des arts qui était pas mal, ça s'appelle carnet de bord. Voilà. Donc les élèves stockent, glanent, scotchent, dessinent, transforment. Et là vous pouvez j'avais un collègue qui récupérait des dépliants touristiques. Alors, parce qu'on n'était pas riche, là, Jacques Brel, et puis leur distribuait en début d'année, et puis les élèves se faisaient, voilà, découpaient, faisaient des collages, avaient leur propre carnet de bord. Hein. Donc ça, c'est la dimension créative et personnelle, et je crois qu'elle est très importante, très importante. Sur place, il est essentiel d'emmener les élèves. Soit que des artistes viennent assister, pas dire participer à des cours, viennent présenter leurs œuvres, mais je crois qu'il est plus important de les faire sortir de l'établissement. Déjà sur le plan, je dirais sociologique, les élèves savent que les musées sont gratuits, ça, la carte EMRA, etc. Ils savent tout ça, mais ça n'empêche qu'ils ne poussent pas les portes des musées. Il faut d'abord les accompagner. Alors je sais quand le public que nous avions à Jacques Brel, mais Brossolette, nous avons un public un peu plus mélangé, mais on a un public de banlieue aussi. Les élèves ont très peur du regard, hein, très peur du regard des badauds, des visiteurs. Ils sont pas bien dans leur corps, ils cherchent une place. En général, ils vont se mettre dans un coin pour se faire oublier. C'est-à-dire qu'il y a des manifestations corporelles de malaise. Qui ont été décrites par Bourdieu dans les années 60, hein, déjà. Ils somatisent beaucoup. Donc il faut les accompagner. Il faut que ça devienne naturel. Il faut être relais. C'est les injonctions contradictoires, n'est-ce pas? Mais bon, je crois que de toute façon, ça passe par une phase d'accompagnement. Donc l'appropriation, c'est d'avoir un objet personnel pour stocker des fiches de travail, stocker des images aussi. Et pourquoi pas laisser les élèves leur demander de faire une recherche sur une œuvre, une recherche monographique, une recherche une étude d'œuvre, et pourquoi pas qu'ils proposent aussi de transformer cette œuvre. Je lisais aujourd'hui un article du Monde. On expose des œuvres à Paris dans une prison. Ce qu'on appelle les populations empêchées aujourd'hui, publiquement. Et que font les prisonniers? Les prisonniers prennent des photos, impriment, reproduisent, et puis transforment. C'est-à-dire que ce qui est frappant, ce qui ressort de cet article, c'est que les prisonniers ont une approche métaphorique, c'est-à-dire qu'ils vont s'approprier. Alors là, complètement, mais dans un sens très, très personnel. Un paysage, alors c'est parfois très très attendu, hein, la liberté, etc. Mais par exemple, un prisonnier qui a choisi un portrait, je ne sais plus si c'est la Joconde, hein, et qui lui a mis un collier, hein, un collier étrangleur. Hein. Bon, alors c'est peut-être à exploiter ça, hein, cette transformation. C'est pas un gros mot, hein, la transformation. C'est une désacralisation, mais en même temps, c'est pour eux aussi une manière de faire entrer les œuvres dans leur monde. Voilà. Je pensais à autre chose, mais je vais avancer. Alors, au musée, il y a plusieurs. Il y a plusieurs pistes. On peut faire un cours. On peut faire un cours magistral. Ça passe très bien. Les élèves sont tellement contents aussi d'être ailleurs, d'être accompagnés. Ils sont rassurés. On peut faire un cours magistral. Alors, ça pose pas trop de problème à condition qu'on soit en petit groupe. Je pense qu'il est plus intéressant de les laisser déambuler avec un... leur donner des consignes très précises, mais alors très précises, avec un timing très précis au départ. Hein. Pas trop long, une demi-heure c'est déjà beaucoup. Et de les faire circuler à l'intérieur d'un département, hein, homogène, bon, sculpture, peinture, avec une thématique. Hein. Et éventuellement avec des œuvres. Vous pouvez plus ou moins diriger. Hein. Donc des œuvres imposées, une thématique imposée, et une thématique qui ne soit pas forcément une thématique historique. C'est très important, ça. Hein. Nous, notre rôle, c'est de recontextualiser. C'est pas de faire des diaporamas comme celui-ci, mais des diaporamas au sens chronologique du terme. Voilà. Il faut qu'ils circulent dans les œuvres. Et il est important qu'ils fassent dialoguer les œuvres et de faire étudier les œuvres deux à deux ou trois par trois. Ça marche pas mal, ça. Ça marche mieux qu'une seule œuvre. Hein, parce qu'ils voient mieux les contrastes. Hein, par exemple, il y a une chose qui marche très bien au Musée des Beaux-Arts. Il y a une salle avec un Rubens et un Champagne face à face. Voilà, ça, ils voient très très bien la différence entre le classicisme français et le baroque flamand. Hein. Après, on peut mettre les mots classicisme, baroque, mais après. Mais d'abord, voilà. Alors, soit des œuvres imposées, des thématiques imposées, une démarche dialogique entre les œuvres, hein, et des questions. Hein, des questions. Et il faut leur faire toujours noter les références, le format, le cartel, hein, voilà, qu'ils utilisent le cartel, qu'ils l'exploitent à fond, et puis ensuite une grille de lecture, hein, qui est celle des profs d'art plastique, hein, c'est nature, etc., etc., plus des questions que vous choisissez. Si par exemple vous les faites travailler sur la matière, vous voulez les faire travailler sur le détail, vous voulez faire travailler sur la lumière, sur les contrastes, sur les objets. Il y a une figure de style dans la peinture occidentale, c'est le chien. Bon, chez Courbet ou chez les époux Arnolfini par exemple, chez Van Eyck, c'est pas le... Ça n'a pas tout à fait le même sens. Bon, c'est un accessoire. Alors là, sur la notion d'accessoire, la notion de cadre aussi. La notion de cadre en peinture. La matière, par exemple, au musée de... Je reste au musée des Beaux-Arts parce que voilà, je l'ai pas mal exploité. On avait fait un truc sur la... art moderne, art contemporain. Donc, ils avaient à différencier, pas à définir, mais à montrer les différences, à chercher les différences entre l'art moderne. Alors là, par contre, on fixait des colonnes, on fixait des œuvres bien, bien identifiées dans des styles. On n'expliquait pas ce qu'était le style, et par contre, ils avaient à chercher, avec un questionnaire, art moderne, art contemporain, et ça marchait très bien, ça aussi. Parce que vous avez la collection de Lubac, hein, qui est intéressante à utiliser. C'est à l'époque où il y avait encore le monochrome d'Olivier Debré. Alors c'est un tableau quasiment intégralement bleu, quasiment. Hein, avec des nuances, voilà, avec un petit trait vert au milieu. Alors ça déconcerte les élèves. Et vous pouvez, par contre, vous avez toute une série de portraits de l'époque Art déco. Vous avez la méduse aussi, le portrait. Jolinski, la peinture, les Russes, les futuristes russes, voilà. Et là, vous avez de quoi faire parce que vous pouvez travailler soit sur un détail technique, vous pouvez travailler sur un détail de représentation, vous pouvez travailler sur la matérialité de l'œuvre, le cadre, le format, et vous pouvez travailler de façon plus classique sur des thématiques. Hein. Nous avions un programme. Alors ça serait plutôt en première, L, première ES en histoire. Hein. Je parle, voilà, c'est donc la période des années 20. Quel rôle dans la création artistique au temps de l'expo des Arts Déco? Donc donc c'était avec par exemple un extrait de La Garçonne, une photo de Coco Chanel, une photographie donc Germaine Creul à Port de Marseille. Bon, des classiques, Man Ray, Solarisation, des choses un petit peu moins connues qui sont au musée de Reims, un portrait un petit peu plus classique, Delaunay, voilà, je vous montre, le cinéma. Alors vous voyez, ça c'est un, voilà, là je pense que c'est le cas limite, parce que bon, c'est pas du cinéma ça. C'est un photogramme, c'est pas du cinéma. Il manque le mouvement. Donc toujours, ça c'est important. On travaille avec les moyens du bord, mais il faut bien rappeler aux élèves que la limite du document qu'on leur donne aussi. Il faut être honnête avec ça, à mon avis. Hein. Pareil, une photo de sculpture, c'est pas une sculpture. Parce qu'une sculpture, on peut en faire le tour, on peut éventuellement la toucher, hein, ou la toucher avec les yeux, parce qu'il y a aussi cette dimension tactile dans le visuel. Hein. Le grain, le lisse, le dur, le relief. Bon. Voilà, bon, par exemple. Et puis, alors, c'est là qu'intervient l'historien. Hein. C'est, en histoire des arts, utiliser des documents de nature diverse, mais toujours leur expliquer que ça, c'est pas une œuvre d'art. La femme doit voter. Mais par contre, ça peut... Ouais, la garçonne... Voilà, que un féminisme s'exprime. Oui, par exemple ici, oui. Oui, mais j'ai pas le. Voilà. La garçonne, c'est un extrait de. Montrer que un document historique peut. Et là, c'est histoire et art plus qu'histoire des arts, mais que ce document contextualise aussi toute cette série d'œuvres. Et que cette affiche, elle est imprégnée d'un imaginaire qui est celui des années 20, qui est Loulou, qui est Louise Brooks, qui est Coco Chanel, voilà. Et qui a une dimension politique dans les œuvres d'art qui sont présentées ici dans cette anthologie, dont le thème... Le thème qui cimente ce travail, c'est la femme dans l'art déco. Bon. Ce qui me semble important aussi, c'est d'utiliser les ressources locales. Donc, à titre personnel, dans un exercice avec des élèves, je mets toujours une œuvre du patrimoine visible dans un musée localement que je vais éventuellement les emmener voir sur place ou pas toujours, hein, mais qui existe, et voilà, montrer qu'il se passe aussi des choses ici, qu'il y a des choses ici à faire, hein, et que tout n'est pas au Louvre. Ça peut paraître évident, mais voilà. L'abstraction, et puis vous voyez, ça c'est une œuvre qu'on peut questionner, elle n'est pas évidente. Enfin, œuvre, objet, ils font. Et puis le contexte, là c'est pareil. En histoire, vous pouvez réinvestir, réutiliser toute la partie du programme sur l'histoire coloniale, colonisation, émancipation féminine. Là, vous faites des branchements qui sont intéressants. Hein. Bon. Voilà. Et Pika. Ah, la garçonne. Et puis le. Moi, j'ai fait un autre exercice avec des élèves sur le corps et l'automobile, par exemple. La représentation du corps et représentation. Là, pour moi, c'est frappant, ici. Hein. Fuselage. Hein, le lisse. Hein, l'objet. Et puis l'abstraction, finalement, c'est le sujet désexué. Pas totalement, certes. Tout le monde le voit. Ouais. Hein. Mais bon, là, c'est ce qui est intéressant aussi, par exemple, en utilisation de Tamberlé Picasso, c'est un retour, une forme de néoclassicisme, finalement, rassurant. Hein, c'est toute l'ambiguïté de l'art moderne. Hein. Hein, il y a deux aspects. Il y a une période, je dirais, Il y a une explosion d'avant-garde hein, jusqu'au milieu des années 20 et puis ensuite. Ensuite, donc beaucoup de recherches expérimentales et puis ensuite c'est une sorte d'enfermement. Hein. Les élèves circulent dans le musée et donc au bout de cette demi-heure au maximum, les élèves présentent devant d'autres élèves. Hein. Donc ils s'expriment, ils présentent une œuvre, ils répondent aux questions et les élèves débattent. Donc c'est pour ça qu'on 30 élèves c'est pas possible, 35 maintenant. Le recteur nous dit que les planchers seront à 35 en lycée hein, à partir de cette année. 35 ce sera un plancher. Oui. Je parle peut-être trop hein. Vous voudriez parler. De façon classique je pensais j'en ai presque terminé puis ensuite si ça vous convient voilà. Donc les élèves s'expriment hein, et ils ont pris des notes, ils présentent oralement. Hein, il y a débat et les élèves et ce que nous faisions aussi, c'était que les élèves évaluaient la prestation, hein, les plus, les moins. Hein, alors avec une grille qui leur est donnée, qu'ils peuvent compléter évidemment, la forme, le fond, l'éloquence. La posture, c'est très important. Pour un public de banlieue, c'était très important aussi qu'ils intègrent des codes, hein, des codes de langage usuels qu'il faut oublier aux yeux de l'interlocuteur d'où ils viennent. Et ça, c'est important aussi hein, pour qu'ils s'intègrent. On s'appuie pas sur le mur, on s'accroche pas au tableau, on regarde son interlocuteur, on enlève sa casquette. Oui. C'est l'éducatif. Donc c'est le moment là. Hein. Et les élèves rendent donc un travail écrit, hein, c'est-à-dire qu'ils font une synthèse écrite de la visite. Hein, sous la forme, par exemple, d'une réponse argumentée. Voilà. On est parti d'une question, nous sommes passés par des œuvres, des questions intermédiaires, et ensuite, ils ont une réponse argumentée, une composition, une dissertation, appuyée sur les œuvres qu'ils ont étudiées, et puis sur d'autres œuvres, ils ont l'obligation d'aller chercher des œuvres non étudiées au cours de la visite. Voilà. Donc ça c'est la partie recherche complément. Hein, c'est très important aussi que les élèves travaillent à la maison. Hein. Voilà. Que tout ne se fasse pas avec nous. Et la dernière chose, une autre piste, parce qu'on peut pas tout faire. Hein. On peut faire un cours magistral devant 2-3 œuvres, pas plus. On peut faire donc ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire un TP. Hein. Et on peut aussi leur laisser plus de liberté. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire leur laisser choisir des œuvres, les présenter, les défendre, plaider. Hein. Ou des couples d'œuvres, c'est plus intéressant. Hein. Enfin, en tout cas, c'est plus intéressant sur le plan pédagogique, ça marche mieux. Hein. Alors, il y a une expérience que fait le Musée des Beaux-Arts depuis quelques années, qui est de préparer une journée où des collégiens, des lycéens viennent d'établissements différents de la région lyonnaise, viennent individuellement, c'est une présentation orale individuelle, viennent présenter à des classes des œuvres qu'ils ont personnellement choisies. Et ils expliquent pourquoi ils les ont choisies. Et ils font une analyse, une monographie classique, scientifique, hein, construite devant leurs camarades. Alors ça peut aussi les motiver. Alors c'est filmé, ça peut être mis sur un site internet, etc. Bon, voilà, c'est plus facile en terrain neutre. Hein, souvent, c'est important de les déraciner. C'est parfois violent, mais il faut le faire. Sur le plan, je terminerai, parce que bon, je pourrais parler des heures et des heures, mais ça serait pas forcément intéressant. On peut mettre à contribution le patrimoine local. Il y a par exemple quelque chose qui, les déambulations urbaines, ça marche très très bien. Mais par contre, il faut bien préparer, hein, bien préparer. Donc aller en repérage, choisir ses immeubles, noter l'adresse, les accompagner ou pas, les encadrer plus ou moins, avec un questionnaire. Par exemple, quelque chose, c'est toujours. Moi, je pense que c'est une piste qui, enfin, c'est commode. C'est un outil commode. C'est le dialogue des styles. Hein. Repérer des différents styles, haussmannien, art nouveau. Il y en a pas beaucoup à Lyon. Hein. Il y a le Château Perrache. Ça marche. Ils sont très accueillants en plus. Si vous... Château Perrache, donc c'est l'hôtel Mercure à Perrache. Il y a des salons Majorel. Ils sont relativement accueillants. Par contre, ils n'acceptent pas les classes entières. Il faut dédoubler. Et puis l'art déco, art nouveau, art déco. Ils montraient comment justement l'art nouveau était beaucoup plus profus, beaucoup plus expérimental que l'art déco qui reproduit finalement. Il est antiquisant, il est classisant, etc. Et montrer qu'il y a une respiration finalement aussi de la création, qu'il y a des cycles de création. Et c'est souvent par l'opposition des styles qu'on peut leur faire toucher du doigt ces aspects-là, la vie de l'art, hein, la vie autonome de l'art, mais dans des contextes aussi qui, c'est là qu'on joue notre rôle de professeur d'histoire. Enfin, c'est de la matière histoire. L'intérêt de notre matière, c'est de recontextualiser. Par contre, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire un tableau, un catalogue des styles, pour les placer sur une chronologie. Ça n'est plus, en tout cas, au lycée, ça n'est plus notre rôle. Au collège, oui. Hein, mais, j'enseigne en lycée, je pense que ça n'a plus d'intérêt. Le problème étant que les élèves ont beaucoup de mal à se repérer dans le temps. Après, si vous jugez utile de le faire, faites-le.